Bienvenue dans ce nouvel enseignement donné par le ministère El Shaddai. Cet enseignement de la parole de Dieu sans compromis vous aidera à grandir spirituellement, à porter du fruit et à prospérer à tous égards comme le veut le Seigneur. Nous en souhaitons une bonne écoute. Que Dieu vous bénisse.
Nous allons continuer donc dans la révélation de l'Apocalypse.
Et
je vous rappelle que nous avions vu déjà un certain nombre de chapitres. Et nous allons encore continuer ce soir. Et je vous rappelle que dans l'Apocalypse, au début, bien sûr, Jean donne des salutations. Ensuite, il va recevoir cette révélation extraordinaire, cette vision de Jésus glorifié. Et nous avons étudié ça depuis longtemps. Puis, Jésus, chapitre 2 et chapitre 3, va donner, bien sûr, des révélations aux sept églises. Nous avons étudié tout cela, ces églises qui existaient à cette époque où Jean va recevoir cette révélation, qui étaient bien sûr dans l'ouest actuel de la Turquie, enfin, la Turquie actuelle. Et on a vu que dans cette première vision, parce que je vous rappelle que l'Apocalypse est une succession de visions et qu'il faut comprendre le pourquoi de ces différentes visions. Donc chapitre 2 et chapitre 3, c'est le message aux sept églises, nous en avons très largement parlé. Nous avons vu toutes les leçons que nous devons tirer des différents messages des différentes églises. Ce que le Seigneur nous montre, alors qu'il loue entre guillemets chaque église, mais aussi qu'il reproche à chaque église certaines choses, sauf une. Et puis au chapitre 4, il va commencer à se passer quelque chose de très différent. D'un seul coup, Jean va encore se retrouver dans l'esprit, mais là, on lui dit, l'ange lui dit, monte. Et il est dans une autre vision. Et cette vision va être faite de plusieurs visions. Et il va recevoir la révélation de la fin des temps. Mais il faut vraiment comprendre beaucoup de choses. Voyez, une telle richesse comme l'Apocalypse demande bien sûr d'avoir beaucoup de fondations. C'est pour ça que régulièrement, quand nous avançons dans l'Apocalypse, je vous enseigne tout un tas de choses à côté pour vous montrer, pour vous donner de la connaissance, afin que vous ne fixiez pas juste sur le texte que vous lisez. Parce que c'est souvent un peu le problème qu'il y a chez beaucoup de chrétiens quand ils lisent la parole de Dieu. Souvent, ce qu'ils en tirent, c'est complètement plat, c'est en deux dimensions, entre guillemets. Et en fait, quand vous avez de la connaissance, plein de révélations sur beaucoup de choses du monde spirituel, en fait, vous comprenez beaucoup mieux. C'est pas simplement un texte que vous lisez, là vous êtes plongé dans votre texte, mais vous comprenez tout ce qu'il y a autour. Et là c'est comme si vous voyez en trois dimensions. Il y a une grande différence entre voir en deux dimensions et trois dimensions. Alors là nous avons vu dans le chapitre 4, et nous en sommes là, que Jean va, d'abord nous avons marqué que Jésus disparaît par rapport à la première vision. Qu'à partir de là, il va y avoir principalement des révélations sur le futur. J'ai bien dit principalement. Et à partir du chapitre 4, vous n'avez plus l'Église sur la terre. Et on verra que l'enlèvement s'est déjà produit. Et je vous montrerai vraiment un des pourquoi de l'enlèvement. Nous allons en parler de l'enlèvement. Alors, Jean donc monte plus haut, il a une, comme une porte dans le ciel. Nous avons vu que l'ange lui dit, je vais te montrer ce qu'il va arriver. Donc là, on a vu que c'est les événements de la souveraineté de Dieu.
Et
que c'est quelque chose d'inconditionnel. Ce qu'il doit arriver dans la suite. Là, ce n'est pas parce que les saints, l'église de Dieu va prier ou pas. Vous savez, souvent il y a des choses qu'on reçoit de Dieu, des choses que Dieu fait aujourd'hui. C'est souvent conditionnel à la foi, à notre consécration. Ce sont des promesses conditionnelles. Là, ça doit arriver. C'est la souveraineté de Dieu. C'est arrêté d'avance. Rien ne changera ce qui a été écrit ici. Et nous allons voir qu'il y a plein de détails. Juste en particulier, en tout cas pour un bon bout de temps, sur ce qu'on va appeler la tribulation, ce que la Bible appelle la tribulation. Et franchement, les inconvertis seront confondus par rapport à ça. Quand ils vivront ces choses, parce que c'est vraiment très détaillé, comme nous le verrons dans les événements prophétiques. Mais avant cela, Dieu nous fait la grâce dans ce chapitre de voir ce qu'il y a au troisième ciel. Et c'est ce que nous avons commencé à étudier. On a vu, parce que c'est important de savoir qu'est-ce qu'il y a au troisième ciel. C'est là où nous irons quand nous allons mourir physiquement. Et là, Jean voit un trône, nous l'avons vu. Nous avons vu que ce n'est pas une nouvelle révélation par rapport à l'Ancien Testament. Mais je vous rappelle que la différence entre les visions de l'Ancien Testament et du Nouveau, c'est que dans toutes les révélations et les visions qu'ils ont eues dans l'Ancien Testament du trône de Dieu, il n'y avait pas de ville et il n'y avait pas non plus de personne. Et je vous ai montré pourquoi. Personne n'était au ciel avant que Jésus ne ressuscite d'entre les
morts.
Et ça explique pas mal de textes que nous avons étudiés. Donc là, Jean nous fait une description. Et nous avons vu qu'il essaye d'utiliser les mots pour nous décrire ça. Par exemple, il décrit Dieu comme ayant un aspect de jaspe et de sardoine et d'émeraude.
Aravuga ngo Imana ngo isa n'akabuyenge kitwa yasipi na kitwa sarudio na kandi kitwa simaragido.
Parce qu'il a du mal à exprimer avec des mots.
Urumva ngo biramunanira kuvuga n'amajambo.
La révélation de ce qu'il a vu.
Ibyo ariko arerekwa.
Et là, je vous explique une chose.
Aho narabasobanura ikintu
kimwe. Tous les gens qui ont eu de vraies visions.
Abantu bose beretswe ivyijuru.
On dit mais c'est un peu difficile à expliquer. Certaines couleurs n'existent pas ici sur la.
Baravuga bati ni ibintu bigoye gusobanura hari amabara amwamwe kwisa
tabaho. Certaines choses n'existent pas.
Abantu ibintu bimwe na bimwe ntibibaho hano kwisa.
Donc on essaie de faire des comparaisons. C'est pour ça que souvent dans les descriptions que vous avez dans les visions, il est dit telle chose était semblable à, c'est-à-dire ressemblait à.
Parce
que c'est tellement extraordinaire que Paul dans 2 Corinthiens 12
a dit qu'il a
entendu des choses. Il arrivait du mal à les exprimer. C'est-à-dire mettre des mots dessus. Donc nous avons vu qu'il y a le trône. Dessus est assis le Père. Et le Fils est dans le Père. Il procède du Père. Et en fait, on voit que Jean décrit aussi qu'il y a un arc-en-ciel. Et je vous ai montré que l'arc-en-ciel, c'est vraiment le symbole de l'alliance, que Dieu est un Dieu d'alliance. Ensuite, nous avons vu que ce phénomène, la décomposition de la lumière avec les gouttes d'eau.
naraberetse nakijya kintu cy'ukugene usanga umuco uhura n'amazi.
Et on sait que, je dirais, ça, ça, c'est tout un symbole ici. La lumière, la vérité qui nous est transmise par le Saint-Esprit, qui est bien sûr dont un des symboles, c'est l'eau. La lumière du ciel, qui vient du ciel, la vérité qui vient du ciel, nous est transmise. Au travers des gouttelettes d'eau, c'est-à-dire par le Saint-Esprit. Et je vous ai dit que les scientifiques disent que dans l'arc-en-ciel, il y a 7 types de couleurs. Et là aussi, ça nous montre que le Saint-Esprit nous transmet la vérité. Par facette. Le Saint-Esprit révèle des choses à l'Église. L'Église rentre dans une dimension. Puis l'Église cherche Dieu et il y a une autre dimension, etc.,
etc.
Il y a une très belle image donc à propos de l'arc-en-ciel. Alors ensuite, nous avons vu qu'autour du trône, il y a 24 trônes, 24 anciens assis sur des trônes. Et là, évidemment, on a commencé à se demander qui sont ces 24 vieillards sages qui sont sur les 24 trônes. Puisqu'ils ont des couronnes. Donc ça veut dire qu'ils ont été récompensés. Ce sont des gens qui ont une très grande autorité spirituelle que Dieu leur a donnée. Car ils sont proches du trône. Ils sont autour du trône. Et là nous avons cherché qui étaient ces 24 vieillards. Et nous savons, ces 24 anciens, pas vieillards, excusez-moi, c'est pas très génial vieillard, c'est certaines traductions, c'est plutôt 24 anciens. Et en fait, on a vu que bien sûr, nous avons la réponse en partie dans les évangiles où Dieu nous montre, Jésus parle que ses disciples, ses douze, les douze seront assis sur des trônes.
On sait
qu'il y en a un qui n'est pas dans le coin, il s'appelle Judas.
Et
que certainement il a été remplacé par Paul.
Ensuite,
les 12 autres anciens, 12 plus 12, eh bien on peut largement penser que ce sont 12 héros choisis par Dieu de l'Ancien Testament.
Donc
la dernière fois, nous avions clôturé en regardant dans Hébreux 11 tous ces héros. Et Dieu en a pris 11 parmi les héros de l'Ancien Testament. 12 dans Hébreux 11, qui est dans Hébreux 11 entre autres. Et en fait, les a certainement mis sur un trône à ce moment-là.
Ce qui fait
nos 24 anciens. Alors, on va continuer à partir du verset 5. Et il est dit du trône, verset 5, donc il est dit « Du trône sortent des éclairs, des voix de tonnerre, devant le trône brûlent sept lampes ardentes qui sont les sept esprits de Dieu. » Alors, nous avons vu qu'apparemment autour du trône, il y a des choses très éclatantes. On parle de tonnerre, on parle d'éclairs. Dans certains endroits, il est parlé de voix comme de gros eaux, c'est-à-dire comme d'immenses torrents qui coulent. Je me souviens quand j'étais un peu jeune et fou. J'étais parti au Canada et aux États-Unis à faire du stop, qu'on appelle, c'est-à-dire avec me faire prendre par les voitures. Et je me souviens, vous savez, là-bas, entre les États-Unis et le Canada, il y a ce qu'on appelle les chutes du Niagara.
Donc c'est une
rivière qui à un moment coule d'un seul coup dans le vide.
Je crois que
c'est plusieurs centaines de mètres si mes souvenirs sont bons. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'on pouvait se trouver pratiquement à un kilomètre ou plus et on entendait de loin comme ça.
Ukumva rero ako kajwi gutyo.
Je me souviens d'avoir demandé, je disais, mais qu'est-ce qu'on entend là?
Uwo munsi ndabaza none nibiki byo.
Et les gens me disaient, ce sont les chutes du Niagara.
Bambwira ngo ayo nama chute.
Et on était encore loin, c'était immense, ça venait un bruit. Alors quand on était près, c'était waouh.
Urumva uwegereye hoho byavuga gose cyane ukiri kure watangura kuvyumva
kuva kwa rero. Et nous parlons autour d'une trône, il y a beaucoup de bruit apparemment de signes de puissance.
Bibiri tubwira ngo hijya no ino intebe inganje hari amajwi imwe nayo yerekana ubushobozi.
Certains ont vu ça et ont dit que c'est très impressionnant.
Bamwe barabibonye ivyo baravuga bati ibintu bitangaje cyane.
Et la Bible nous dit devant le trône brûlent sept lampes ardentes qui sont les sept esprits de Dieu.
Gwimbere intebe inganje ngo imurindwi z'umuriro zakire imbere yayo.
Alors, rappelez-vous d'une chose. Il est dit clairement que l'Esprit de Dieu a différentes facettes. Sur le trône, nous savons qu'il y a le Père et le Fils. Et que le Père est dans le Fils et le Fils est dans le Père. Rappelez-vous ce que nous avions lu dans l'évangile de Jean particulièrement. Mais il y a quelque chose qui est assez intéressant à propos des sept esprits de Dieu, entre guillemets, les sept facettes de l'Esprit de Dieu. Je vous rappelle que nous avions déjà vu ces textes-là. Et la Bible, au chapitre 5, au verset 6, va encore nous en parler.
Elle
va nous parler de quelque chose, on réétudiera ça quand on va étudier le chapitre 5, au verset 6.
Hein.
Mais là, je vais insister sur quelque chose. Il est dit, je vis au milieu du trône des quatre êtres vivants et du milieu des anciens, un agneau qui était là comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu, envoyé, regardez bien, envoyé par toute la terre.
Gombona hagati ya ntebe na bya binyabugingo bine no hagati ya babakuru umwagazi w'intama hagaze asa nuwishwe afise amahembe ndwi n'amaso ndwi nivyo mpuye mu ndwi z'Imana zatumwe kwa mazija mwisi yose.
Alors, vous savez qu'il y a des attributs divins.
Murazi uko Imana hari ibintu
des caractéristiques divines.
Biyigenga,
c'est-à-dire qui fait de Dieu
Imana,
quelqu'un qui est complètement hors classe par rapport à l'homme.
Imana iba itandukanye n'ivyaremwe
n'abantu. On parle de l'omnipotence de Dieu.
Baravuga ngo Imana ishoboye byose.
C'est le fait que justement Dieu est capable de tout, c'est-à-dire rien n'est impossible à sa puissance.
Bivuga ngo ubushobozi bwayo ifise nta na kimwe chobunanira.
Si Dieu agit quelque part, bien sûr, il y a des conditions divines pour que Dieu puisse agir. Dieu est capable de tout. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui peut, je dirais, empêcher être plus fort que la puissance de Dieu. Il
n'y
a rien qui lui est impossible. Le seul qui limite Dieu, c'est nous-mêmes dans notre vie. Maintenant, nous savons qu'il y a l'omniscience de Dieu. Et l'omniscience, c'est le fait que Dieu connaît toutes choses, présent, passé, futur. Il y a aussi l'omniprésence de Dieu. Et l'omniprésence de Dieu, c'est souvent un peu mal compris. Ça veut dire que rien n'échappe au contrôle de Dieu. C'est-à-dire que dans cet univers, rien n'échappe au contrôle de Dieu dans le sens. Dans le sens qu'il ne peut pas y avoir un coin quelque part dans l'univers où Dieu ne sait pas qu'il se passe quelque chose. C'est-à-dire quelque chose qui peut être caché aux yeux de Dieu. Et il faut remarquer que, entre autres dans le psaume 139, le psalmiste va nous dire quelque chose qui est vraiment étonnant. En fait, il y a eu une révélation ici très importante de cette à la fois omniscience et omniprésence de Dieu. Quand nous lisons ce psaume, souvent, bon, on va lire cela, on va se l'approprier, nous personnellement. Mais ça montre cet aspect que dans l'univers, rien n'échappe à Dieu. C'est très important. au chef des chambres de David, et David avait vraiment reçu une révélation à ce moment-là. Psaume de l'Éternel, tu me sondes et tu me connais, verset 2. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée, verset 3. Tu sais quand je marche et quand je me couche, tu pénètres toutes mes voies, verset 4. Car ta parole n'est pas sur la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, tu mets ta main sur moi. Verset 6. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Vous voyez, David se sentait tout petit par rapport à l'immensité de la connaissance et de la présence de Dieu. Verset 7. Où irais-je loin de ton esprit? Où fuirais-je? Regardez bien. Où fuirais-je loin de ta face? C'est-à-dire, si je vais quelque part, bah, tu vas m'y trouver. Il va le dire d'ailleurs juste après. Verset 8. Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Verset 9. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, verset 10, là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. Verset 11, si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, c'est-à-dire, il y a un endroit où Dieu ne peut pas savoir ce qui se passe dans ma vie. Il y a un endroit où, peut-être, Dieu ne sait pas ce qui va se passer dans ma vie. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. C'est-à-dire que ta vérité, obligatoirement, va éclairer mes ténèbres. Tu sais, ta lumière, c'est-à-dire ta présence, ça veut dire ta connaissance. Tu sais, Seigneur, tu sais. Verset 12, même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Verset 13, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. 14, jusqu'à la fin, vous irez tout à l'heure. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'étais fait dans le lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Que tes pensées, ô Dieu, tes pensées me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant, homme de sang, éloignez-vous de moi. Il parle et toi, de toi d'une manière criminelle. Ils prennent ton nom pour mentir, etc. etc. Mais voyez, ici, David a vraiment découvert une chose sur Dieu.
C'est
qu'il sait.
Arazi.
Les yeux de Dieu sont sur lui.
Yuko amaso yuhoraho ari kuri we.
Il sait
Arazi.
Que rien
yuko ngo nta na kimwe
n'échappe aux yeux de Dieu.
Chosiga inyonga z'Imana.
Dieu dans tout l'univers.
Imana rero mwisi yose.
Il n'y a rien qui peut lui échapper.
Nta na kimwe gishobora kuba cyo isi.
Rien qui se fait.
Nta na kimwe kiba.
Que ce soit pour sa gloire.
Haba kubwicubahiro cyane.
Que ce soit contre lui à 100%.
Haba kuyigwanya.
Quoi que ce soit qui est fait dans l'univers, dans le monde invisible et visible, rien ne lui échappe. Rien ne lui échappe. Rien ne peut échapper à Dieu. Et là, David avait vraiment une révélation. C'est ce dont nous parle l'Apocalypse. Quand il est parlé de ces sept esprits de Dieu, entre guillemets, ces sept facettes de l'esprit de Dieu, quand on rapproche des différents textes,
et
bien on s'aperçoit que ça nous parle du fait que rien n'échappe à Dieu. Ses yeux parcourent toute la terre. Personne ne peut se cacher devant sa face. Ensuite, au verset 6, Apocalypse 4, il est dit devant le trône, c'est comme une mer de verre semblable à du cristal. Alors, le cristal, c'est un verre un peu particulier, je ne sais plus trop comment ils font ça d'ailleurs, mais ça brille d'une façon particulière. Il existe des verres en verre.
Mais
il y a aussi ce qu'on appelle des verres en cristal, dit cristal simplement.
Et
quand vous regardez le cristal,
et
quand vous mettez ça près d'une lumière, ça reflète, ça fait toutes sortes de lumières qui sont reflétées.
Et
c'est très joli. C'est-à-dire, vous prenez un verre normal et vous prenez un verre en cristal. Ça brille, le cristal brille d'une façon spéciale.
Il
renvoie des lumières de différentes couleurs. Vous avez l'impression que c'est tout beau.
Il y a
quelque chose dessus de très spécial. Et en fait, là encore, Jean essaie d'expliquer ce qu'il voit. Parce que vous savez, le cristal, c'est une sorte de verre, donc c'est dur. Et en fait, il nous parle comme si finalement il y avait une sorte de mer en verre qui avait été coulée devant le trône. C'est la seule façon dont il peut décrire ça. Mais en fait, ça a l'air de tellement briller, tellement être beau.
Il
a encore du mal à décrire ce qu'il voit. On voit encore la faiblesse des mots humains.
On décrit
la gloire divine. Il est obligé de mettre des mots qui nous parlent un peu, mais tellement peu en quelque sorte, par rapport à toute cette gloire qui est dans le ciel. Oh, nous verrons cette gloire un jour. On se rappellera de ces paroles d'Apocalypse.
Mais
on dira, c'est vrai, l'apôtre Jean a décrit ça comme il a pu. Mais c'est tellement extraordinairement beau. Et vous direz, finalement, la mer de cristal, elle brille. C'est ça qui brille autant.
Et
on comprend maintenant pourquoi Jean a essayé de décrire ça comme il pouvait. Dans la deuxième partie du verset 6, il est dit au milieu du trône et tout autour du trône, quatre êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion, le deuxième être vivant semblable à un veau, le troisième être vivant a comme un visage d'homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle en plein vol. Les quatre êtres vivants ont chacun six ailes et sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans.
Baravuga ku murongo gice cya kabiri ngo kandi hagati ahahanganye niyo ntebe no kuyikikuza hari binyabugingo bine byuzuye amaso imbere n'inyuma. Ikinyabugingo cya mbere cyasa n'intambwe, icya kabiri cyasa n'inyana, icya gatatu cyari gifise mu maso hasa naho umuntu, icya kane cyasa n'inkukuma iguruka. Ibyo binyabugingo bine bifise amababa atandatu atandatu kandi byuzuye amaso impande zose n'imbere mu nda ntibiruhuka ku murango no mu ijoro byama bivuga imbere y'Imana n'ibindi.
Alors, qu'est-ce que sont ces entre guillemets animaux?
None ibi bikoko ibi binyabugingo ni ibiki?
Nous le savons, nous avons étudié en partie.
Ce
sont ces chérubins.
Ni abakerubi.
Et évidemment, nous allons voir les textes d'Ézéchiel. Et là, ce soir, on va s'intéresser aux faces qu'il décrit,
aux visages.
Parce que chaque visage, les quatre visages,
ont
une signification particulière.
D'abord,
retournons dans un texte que nous avions déjà lu, dans Ézéchiel chapitre 1. Et on va lire à partir du verset 6. Et vous allez voir, vous retrouvez vraiment un passage parallèle. Mais là, on est dans l'Ancien Testament. Je vous rappelle que Ézéchiel va voir tout au début du livre d'Ézéchiel, vous avez une vision du trône. On va lire à partir du verset 5, s'il vous plaît. Ézéchiel 1. Et en fait, comme je vous le disais précédemment, lui, il ne va pas voir les 24 trônes. Il
ne
va pas voir la Jérusalem céleste. Mais il va voir le trône.
Et
il va voir les chérubins. Et il va en faire une description qui correspond à ce que Jean a vu. Heureusement d'ailleurs. Dieu n'a pas changé de trône entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Non, parce que parfois, vous savez, on a plein d'idées sur qui est Dieu, etc.
Mais
la Bible nous montre beaucoup de choses sur le trône, sur le troisième ciel. Donc ici, il est dit, au centre encore apparaissaient quatre animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. chacun d'eux avait quatre faces et chacun avait quatre ailes. Verset 7. Leurs pieds étaient droits et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. Ils étincelaient comme de l'airain poli. Verset 8. Ils avaient des mains d'hommes sous les ailes et leurs quatre côtés, et tous les quatre avaient leurs faces et leurs ailes. Verset 9. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre, ils ne se tournaient point en marchant, mais chacun marchait droit devant soi. Verset 10, écoutez, regardez bien ici maintenant. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme, tous quatre une face de lion à droite, tous quatre une face de bœuf à gauche, et tous quatre une face d'aigle. On peut lire au verset 10, s'il vous plaît, en Kirundi.
Kandi uko ari bine byari bifise mu maso nk'ahinka mu ruhande rw'ibumoso kandi uko ari bine byari bifise mu maso nk'ahinkukuma.
Donc je vous rappelle qu'Ézéchiel nous fait toute une description au chapitre 1.
Aha turabona Ézéchiel ku gice cya mbere atubwira ibintu byinshi abona.
Vraiment, je dirais si vous essayez de dessiner d'après le texte, c'est pas facile.
Ugerageje kucapa ibi bintu yari ko aravuga ngaha ntibyoroshye kuvuga no
gucapa. Jean lui va passer par une description beaucoup plus brève.
Yohana wewe novuga ko yavuze muri make ivyo yabonye.
Mais il va nous décrire un certain nombre de choses.
Ariko aragaragaza kutubwira ibitari bike.
Donc on sait que c'est chérubin parce que nous le savons aussi dans Ézéchiel 10 que ces fameux animaux sont des chérubins. Il les nomme Ézéchiel chapitre 10, il les nomme bien en tant que chérubin.
Urumva rero Ézéchiel igice cy'10 aravuga neza akabyita amazina ngo nabakerubi.
Donc nous savons que ce qui supporte le trône.
Urumva turazi ko ibishigikiye intebe
y'Imana. Ce sont ces quatre êtres de très haut rang, de plus haut rang céleste.
Y'Imana turazi ko ari ibinyabugingo. Imana yaremye bikomeye cyane.
Et ces quatre, donc sont quatre chérubins.
Aba bakerubi rero bane.
Ils ont des ailes.
Bifise amababa.
Sous leurs ailes, des mains.
Musi amababa hari amaboko.
Il y a plein d'yeux tout autour.
Bifise amaso ahantu hose.
Ça par contre, c'est compliqué.
Ibyo urumva biragoye. Comprendre. Biragoye gutahura.
Sous forme de roues.
Ngo bimeze nk'ibintu ngo by'amakuru du muri
ko babyita. C'est ce que vraiment Ézéchiel nous décrit.
Ibi ni byo Ézéchiel avuga.
Et que chacun de ces chérubins.
Ngo kimwe cyose.
A quatre faces.
Umukerubi wese afise mu maso hane.
Et ces quatre faces.
Ayo aho mu maso hane.
Représente un symbole particulier.
Byerekana ikimenyetso kimwe kidasanzwe.
Dans les deux descriptions, que ce soit dans Ézéchiel, que ce soit dans Jean.
Haba muri Ézéchiel cyangwa muri Yohana.
Eh bien, vous avez d'abord la face de lion. Ensuite, la face de bœuf. D'homme. Et d'aigle. Et donc, quatre faces. Et en fait, ces quatre faces représentent les quatre facettes.
Quatre côtés, ouais.
Excuse-moi, monsieur. Ok, ça se dit bien en français, mais peut-être moins en Kirundi. Les quatre facettes, en fait, de la révélation de Jésus-Christ. Dans les évangiles. Rappelez-vous qu'il y a combien d'évangiles ? Quatre. Et dans chaque évangile, Jésus va se révéler d'une certaine façon. Si vous étudiez bien la parole de Dieu, vous verrez que chaque évangile a un focus particulier. Alors, le lion, la face de lion, c'est le symbole de la royauté. Rappelez-vous que le lion, c'est le roi des animaux. Le lion représente toujours la royauté. Vous verrez partout on a utilisé comme symbolisme le lion dans n'importe quel pays du monde. Le lion, c'est toujours le symbole de la royauté. Et c'est exactement comme ça que Jésus s'est révélé dans l'évangile de Matthieu. Matthieu a fait ressortir le Fils de Dieu venu en chair comme étant le roi. Le roi. Christ le roi.
Christ umwami.
Deuxième, la face de bœuf. Le bœuf, c'est toujours le symbole du serviteur. Le roi règne, mais le bœuf travaille. Il peine durement au travail. Et c'est le symbole donc du serviteur. Et vous voyez tout à fait cela dans l'évangile de Marc. L'évangile de Marc, Christ est présenté comme le serviteur. Celui qui vient servir l'humanité. Non pas pour être service,
mais
pour servir l'humanité. C'est exactement ce qui ressort vraiment dans l'évangile de Marc. Jésus va d'endroit en endroit. Il est là, il guérit des gens. Il est à la disposition du peuple. Il est là en train de servir. Il passe du temps partout où il peut. Tous les enseignements qu'il peut faire, toutes les guérisons qu'il peut faire, tous les miracles, les foules sont autour de lui. Et il est là et il sert les gens. C'est pour ça d'ailleurs que nous sommes appelés des serviteurs de Dieu. Parce que nous suivons l'exemple du Maître. Nous voyons de plus en plus de gens aujourd'hui qui malheureusement, je dirais, exploitent l'évangile à des fins personnelles et sous un faux couvert de service, eux-mêmes se font servir, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la mentalité, l'esprit de service, mais ils ne cherchent qu'une chose, c'est à exploiter le peuple de Dieu sous le couvert de tout un tas de manipulations. Jésus n'a jamais été comme ça. Jésus était proche des gens. Jésus servait. Jésus a toujours été le serviteur. Et ça ressort vraiment dans cette face de bœuf que les chérubins ont. Ensuite, troisième face, c'est la face d'homme. Et là, bien sûr, c'est le symbole de l'humanité de Christ. L'évangile de Luc dépeint vraiment comme
Christ
l'homme, l'humanité de
Christ.
Vous savez, quand Dieu le Fils s'est fait chair, sur la terre, Jésus était 100% homme et 100% Dieu. Vous allez me dire, comment est-ce qu'il était 100% Dieu sur la terre? Oui, il a réduit des attributs divins. Les attributs que nous avons vus, l'omnipotence, c'est-à-dire la toute-puissance, l'omniprésence et l'omniscience. Quand Dieu le Fils s'est incarné, il a réduit volontairement ses attributs divins pour un temps, pour pouvoir venir et se mettre à la dimension de l'homme. Donc Jésus est présenté dans l'évangile de Luc comme Christ, le simple homme qui a souffert. Et la dernière face, c'est la face d'aigle. L'aigle, c'est le symbole de la divinité. Beaucoup s'en sont servis plus tard dans leurs empires, dans ce monde, mais personne n'était Dieu, si ce n'est celui qui est venu en chair il y a 2000 ans pour nous,
frères
et sœurs. Et vraiment, dans l'évangile de Jean, vous avez vraiment la description de Jésus Dieu. Jésus Dieu le Fils. Vous savez, ce sont des doctrines importantes, ça. Je pourrais vous montrer qu'au travers les religions et les sectes, à la fois la divinité de Jésus-Christ a été attaquée, à la fois l'humanité de Jésus a été attaquée. Et il est clair que pour être sauvé, il faut croire avec son cœur que Jésus-Christ est Dieu le Fils venu en chair. C'est très important. Ça a été terriblement attaqué. Terriblement attaqué. Par exemple, les musulmans ne croient pas dans la divinité de Jésus. C'est pas pour rien, ils croient que c'est un prophète. Parmi d'autres prophètes. Mais ils renient la divinité de Jésus. Les témoins de Jéhovah, c'est la même chose. Dans Colossiens, si vous lisez bien l'épître aux Colossiens, vous verrez que Paul est obligé d'insister sur à la fois la divinité de Jésus et l'humanité de Jésus. Pourquoi ? Parce que Colosse était dans une région du monde où il y avait tout un tas de philosophies qui étaient là, où ils croyaient dans des demi-dieux, demi-hommes. Ils étaient issus de philosophies où il y avait des dieux, des déesses, des fils qui étaient engendrés par les dieux et le dieu et la déesse. Mais c'était ce genre de philosophie en laquelle ils croyaient, c'est-à-dire des esprits sataniques qui avaient convaincu des populations entières. Et Paul a dû remettre les pendules à l'heure. Dans le ciel, ces chérubins témoignent de l'humanité de Christ, aussi de la divinité de Christ. Vous savez, il y a des témoignages dans le ciel. Nous verrons qu'il y a le témoignage de l'agneau qui a été immolé. Il y a beaucoup de témoignages dans le ciel qui sont les fondations de notre salut. Tout ça, ce n'est pas par hasard. Mais Dieu a choisi de les laisser comme des témoignages vivants dans le ciel. Alors revenons maintenant, nous avons vu ces quatre faces des chérubins. À la suite de ce verset que nous sommes en train de lire, c'est-à-dire le verset 6 au verset 8. Et donc, les quatre êtres vivants, verset 8, il dit, ont chacun, donc c'est sur les chérubins, six ailes et sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Vous voyez, ça rejoint Ézéchiel, nous l'avons vu, chapitre 1 et chapitre 10 d'ailleurs. Regardez bien maintenant, il ne cesse de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient.
Ibyo binyabugingo bine ku murongo w'umunani bifise amababa atandatu atandatu kandi byuzuye ngo amaso impande zose n'imbere mu nda ntibiruhuka ku murango no mu ijoro byama bivuga bituweru weru wera niwe mwami imana ashobora byose yamyeho kandi ariho kandagiraze.
Évidemment, on ne peut s'empêcher de penser à ce passage d'Ésaïe chapitre 6 que nous avons déjà lu, mais que nous allons relire au verset 1 à
3,
où Ésaïe va voir le Seigneur. Par contre, il y a un petit mystère où nous n'avons pas la réponse, et je vous le dirai, parce qu'il faut être clair. Il y a certaines choses, vous savez, des fois quand on compare des visions de la parole de Dieu, il y a des choses où on n'a pas tout, je dirais, tout l'éclairage de la révélation de Dieu. Et des fois, il y a des questions qu'on se pose, en tout cas, qu'on peut se poser. Alors, c'est Ésaïe qui dit cela, et Ésaïe va voir le trône de Dieu. Il va dire, au verset 1, « L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. » Verset 2, des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes, deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds, deux dont ils se servaient pour voler. Verset 3, ils criaient l'un à l'autre et disaient, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. »
Nabonye umwami Imana byagiye ku ntebe y'ubwami ndende ashizwe hejuru impuzu yiwe y'igisaga yuzuye urusengero abaserafi bari bahagaze hejuru yiwe umuserafi wese yarafise amababa atandatu abiri yatwikiriza mu maso yandabiri yatwikiriza ibirenge yandabiri yarayagurukisha babarirana basemerera batuweru weru wera ni uhoraho nyene ingabo isi yose yuzuye icubahiro ciwe.
Alors vous voyez ici, c'était pas ce que Jean entend et voit. Apparemment, c'était quelque chose que Ésaïe avait vu et entendu. Maintenant, il y a quelques petites questions qu'on va se poser.
Bon,
vous voyez, il dit Saint, 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 le Dieu trois fois saint. Ça, c'est ce qu'Ésaïe a entendu 700 ans avant la venue de Jésus.
800
ans plus tard environ, c'est-à-dire, je vous rappelle qu'entre le prophète Ésaïe et la venue de Jésus, il y a environ 700 ans. Et lorsque Jean reçoit sa révélation, il a presque 100 ans, à peu près 95 ans, c'est ce qu'on pense. Donc en gros, il y a 800 ans entre les deux visions. Ces deux hommes de Dieu vont entendre dans le ciel les mêmes choses qui sont dites. Saint. L'un dit, entend, est l'Éternel des armées, la terre est remplie de sa gloire. L'autre, il entend, Jean entend, Saint, 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 est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Alors ici, on voit vraiment que ces êtres vivants qui sont nommés des chérubins clairement par Jean et par Ézéchiel, déclarent la gloire de Dieu, c'est du côté angélique là. Je vous rappelle que les chérubins et les séraphins sont des anges de très très haut rang, des créatures angéliques. Donc on voit que d'abord les chérubins et les séraphins proclament la sainteté de Dieu. Mais là, Jean a une révélation un peu plus importante. Et comment dire, Ésaïe, lui, il disait, la terre est remplie de sa gloire. C'était une prophétie qui ne s'est pas encore accomplie aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, même encore, la terre n'est pas remplie de la gloire de Dieu, frères et sœurs. Regardez autour de vous. Si pour vous, ça c'est la gloire de Dieu,
non.
Il y a un jour où la terre sera remplie de la gloire de Dieu. Quand Dieu aura restauré le royaume, je vous rappelle, et qu'il l'aura instauré sur la terre quand il aura recréé la surface de la terre. Là, la gloire de Dieu sera partout. D'une façon incroyable. Et les séraphins proclamait une prophétie.
Qui doivent
d'abord, à mon avis, continuer à proclamer. Rappelez-vous bien d'une chose. À chaque fois que vous avez dans la parole de Dieu une révélation sur l'éternité, sur le ciel, sur la fin des temps, ça nous parle toujours des questions du royaume de Dieu. Ça, il faut bien toujours que vous l'ayez en tête. Le royaume est la finalité du royaume. Rappelez-vous que sur cette terre, nous sommes dans un passage qui est déterminant pour notre éternité et l'éternité de ceux à qui nous parlons de Christ. Mais la finalité, c'est que Dieu viendra sur sa propriété avec ceux qui l'ont aimé dans les temps où nous sommes depuis la création de l'homme, ceux qui ont voulu choisir de marcher avec lui alors que ce monde a été vendu au péché, à la malédiction de la chute, à l'ennemi qui a les systèmes de ce monde, ceux qui auront choisi de dire non, nous ne vivons pas pour aujourd'hui. Nous ne vivons pas pour le siècle présent. Mais nous vivons pour le siècle à venir. Tout en ayant conscience que dans ce siècle présent, nous devons régner par la parole de Dieu. Nous devons influencer au travers de nos destinées ce monde ici, en essayant d'en amener un maximum dans le royaume de Dieu. Mais c'est toujours une affaire de royaume. Vous allez le voir constamment. Constamment. Il va y avoir des moments où ça va batailler pendant la tribulation. Et régulièrement, il y aura des déclarations
qu'il
va régner pour l'éternité
ici,
et que nous régnerons avec lui.
Constamment
on va parler du règne de Dieu.
Donc ne
sortez jamais ça de vos têtes ni de vos cœurs,
parce
que régulièrement
chose,
la parole nous en parle.
Revenons
à Apocalypse 4 verset 8.
Donc
rappelez-vous les chérubins et les séraphins que apparemment Jean ne voit pas. C'est avec la question avec laquelle on ne va pas avoir de réponse. Parce qu'Ésaïe voit les chérubins, il les nomme. Les séraphins, excusez-moi. Il dit, j'ai vu les séraphins qui volaient là. Par contre, quand nous voyons Ézéchiel,
Ézéchiel
nomme et nous montre les chérubins. La différence apparemment entre les deux, les deux ont des ailes. On ne sait pas si les séraphins ont quatre faces. Apparemment, non. Par contre, les chérubins ont quatre faces.
Et
au-dessous d'eux, il y a comme des roues, comme nous dit la parole de Dieu, avec des yeux partout. Dans la vision d'Ésaïe, il n'a pas l'air d'avoir vu ça. Mais une chose est sûre, c'est que je vous rappelle que ces créatures angéliques de très haut rang, leur rôle et de rester autour du trône de Dieu et de veiller à l'intégrité du trône de Dieu. C'est-à-dire que Dieu doit rester sur son trône. Rappelez-vous d'une chose, le diable était aussi un chérubin qui s'est rebellé contre Dieu, et là il a essayé de toucher à l'intégrité du trône de Dieu. Mais bien sûr il n'a pas pu réussir. Mais c'est important de comprendre cela. Donc ici, on va voir les chérubins ne pas cesser de dire jour et nuit, saint, saint, saint est le Seigneur. Ils déclarent la sainteté de Dieu. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Là, c'est très intéressant, qui vient. Sous-entendu qu'il va venir régner. Qui vient et qui va régler les comptes. Dieu est un Dieu rempli de patience.
Mais
quand il règle les comptes, il règle les comptes. Et nous verrons comment Dieu va régler les comptes avec l'humanité. Au travers de ses jugements. Et comment aussi il va régler d'une autre manière complètement différente les comptes avec nous dans cette période de 7 ans pour nous donner nos récompenses selon ce que nous aurons fait dans le Seigneur. Alors maintenant, on va continuer au verset 9, 10 et 11 et ça nous permettra de clôturer ce chapitre. Alors 9, 10 et 11, c'est vraiment intéressant aussi. Donc regardez bien, l'agent va voir ce que jamais personne dans l'Ancien Testament, dans leur vision, n'avait vu. Jean va voir les êtres spirituels de très haut rang, chérubins, comme Ézéchiel les a vus, comme aussi David les a vus. Vous vous rappelez, dans les psaumes, on a lu des visions aussi. Ils ont vu ces chérubins, mais ils n'avaient pas vu quelqu'un d'autre, d'autres créatures, donner la gloire à Dieu. Là, Jean va voir deux types de créatures, donner la gloire à Dieu. Les êtres angéliques, mais aussi les hommes qui sont morts en Christ. Et là, il va juste nous parler autour du trône de ce qui se passe. Mais dans d'autres passages, il verra une immense foule rendre la gloire à Dieu. Là, il est dit, quand les êtres vivants rendent gloire à Dieu, c'est-à-dire les chérubins, et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, verset 10, là on voit les 24 anciens se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leur couronne devant le trône en disant.
ngo kandi yo ivyo binyabugingo bihaye uguhimbazwa n'icubahiro n'ishimwe ivyagiye kuri ya ntebe niyo ibaho ibihe bitazoshira baba kuri 24 baca bikubita imbere y'ivyagiye kuri yo ntebe bagasenga ibaho ibihe bitazoshira bagaterera ibitsibo canke ingori zabo imbere yayo iyo ntebe bavuga.
Et verset 11 il dit tu es digne notre Seigneur et notre Dieu de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées.
Bati mwami wacu mana yacu birakubereye guhabwa guhimbazwa n'icubahiro n'ububasha kuko ari wewe waremye byose icatumye bibaho kandi icatumye biremwa nuko wabigombye.
Alors verset 10
ku murongo w'icumi.
Donc verset 9 on voit quand les chérubins rendent la gloire, l'honneur, la puissance à Dieu. Alors, il y a aussi une réponse de la part des 24
anciens.
Et la Bible nous donne un terme intéressant que j'aimerais juste, sur lequel j'aimerais insister très légèrement. Il est dit au verset 10, les 24 anciens se prosterneront devant celui qui est assis sur le trône. Ils adoreront celui qui vit au siècle des siècles.
Ngo babakuru 24 baca bikubita imbere y'ivyagiye kuri yo ntebe bagasenga ibaho ibihe bitazoshira.
Quand il est dit les 24 anciens se prosterneront.
Aha bavuga ngo babakuru 24 bikubitira imbere y'iyo ntebe.
Le verbe grec ici est très intéressant.
Aha ijambo mu kigiriki rikoreshwa
riragira. C'est pas simplement se mettre à genoux doucement et adorer.
Su gupfukama buke buke no guhimbaza Imana.
Il y a un verbe grec qui nous décrit cela.
Hari ijambo ry'ikigiriki bakoresha ngaha.
Mais là le verbe est beaucoup plus fort. Littéralement, lorsqu'il y a cette scène céleste qui se déroule, littéralement, la Bible nous dit que les 24 anciens se sont écroulés en tombant par terre, écroulés violemment, sont tombés comme ça. Pourquoi? Parce que quand il y a la gloire, frères et sœurs, on verra dans le ciel quand nous allons nous approcher du trône. Je vous garantis, vous allez vous écrouler devant la face de Dieu. Vous l'adorez comme vous ne l'aurez jamais adoré. Vous vous écroulez littéralement devant sa gloire, devant sa majesté, devant sa puissance. C'est exactement ce qu'il est décrit ici. Il n'est pas décrit simplement, ben voilà, ils se sont prosternés. Juste pour montrer, voilà, tu es notre Dieu, gloire à toi, Seigneur. Pas du tout.
Oh yeah.
Vous savez, apparemment, dans le ciel, ça secoue, ça crie très fort pour la gloire de Dieu.
C'est
pas du tout silencieux, vous avez vu la scène céleste. Il y a des tonnerres, il y a des éclairs. Il y a la voix comme le bruit de gros eaux. Il y a les chérubins qui crient saint, saint, saint. Ça bouge apparemment. Dans le ciel, ça bouge. Ça bouge, mais dans le bon sens du terme. Ça bouge dans la gloire de Dieu. Tellement cette gloire est puissante et forte. Nous allons y aller, frères et sœurs. Le jour où ton cœur va s'arrêter ton esprit et ton âme vont voir exactement tout ça. Vous verrez exactement ça, nous verrons exactement ça. Et là, ils vont s'écrouler devant Dieu. Et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ils jettent leur couronne en disant, verset 11, tu es digne, notre Seigneur, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses. Et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles furent créées. La Bible nous dit clairement dans plusieurs passages que c'est par lui et pour lui qu'ont été créées toutes choses. Mais vous voyez, on voit la différence entre ces êtres célestes qui adorent Dieu. Parce qu'il y a une chose qu'il faut que vous compreniez vraiment. La différence entre les anges et nous. Les anges ont été créés et ont été remplis de la gloire de Dieu. Dieu leur a donné des positions d'autorité diverses.
Imana yabahaye ibibanza byo gutegeka bitandukanye.
Les anges,
abamarayika,
les archanges,
abamarayika
les chérubins,
abakerubi,
les séraphins,
abaseraphi,
et ils ont une gloire sur eux.
Barafise icubahiro kibaherekeza.
Mais il y a quelque chose que toi tu peux dire et tu diras à Dieu.
Ariko wewe hari ikintu uzobwira Imana ushobora kubwira Imana.
Qu'aucun ange
atamumarayika numwe
ne pourra dire.
Ashobora kuvuga.
Qu'aucun séraphin, qu'aucun chérubin ne pourra dire.
Atamuserafi atamukerubi ashobora kuvuga.
Parce qu'il y a quelque chose.
Hari ikintu
quelque chose.
Hari ikintu
que ces créatures
ivyo binyabugingo
n'ont pas vécu.
Bitigeze bibamwo.
Et que toi tu as vécu.
Ariko wewe wabayemo.
Toi tu diras tu es digne Seigneur.
Wozovuga uti urabereye Imana.
Parce que vraiment, moi, je n'étais rien.
Kuko,
j'étais un pécheur perdu. Privé de cette immense gloire. Mais aujourd'hui, si je vois cette gloire, Seigneur, c'est parce qu'un jour, tu m'as fait grâce. Tu m'as fait grâce. J'étais indigne. Et tu m'as rendu digne. C'est pour ça que tu es digne, Seigneur. Tu es digne de toutes choses. Les anges, frères et sœurs, sont inférieurs à nous. Vous savez ça? Ils sont inférieurs à nous. Nous sommes en trois dimensions. Ils sont en deux dimensions. Ils ont été créés glorieux. Nous avons subi la corruption du péché. Mais Dieu a fait de nous de nouvelles créatures pour pouvoir nous amener dans sa gloire. Je vous garantis, nous avons des choses à dire à Dieu dans l'adoration et des louanges qu'aucun ange ne peut donner à Dieu. Il faut que tu t'en rendes compte, mon frère. Aucun ange ne peut dire j'ai été purifié par le sang de Jésus. J'étais privé de sa gloire. Rappelez-vous ce que la Bible dit. Tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Et Dieu t'a restauré dans sa gloire que tu ne vois pas encore avec ton corps et tes yeux de chair. Mais que tu goûteras ce jour. Nous avons des louanges et une adoration que les anges ne peuvent pas donner à Dieu. Nous pouvons dire des choses à Dieu que des anges ne peuvent pas dire à Dieu. Les anges n'ont pas connu l'amour rédempteur de Dieu. Eux, ils avaient la vie spirituelle. Ils ne se sont pas écartés avec les anges déchus. Ils ont gardé leur dignité et la gloire qu'il y avait sur eux. Depuis le moment où Dieu les a créés. Mais toi, tu étais privé. J'étais privé de la gloire de Dieu. Et un jour, il m'a rendu digne de pouvoir avoir sa présence. De pouvoir un jour voir ce qui va être décrit, ce qui est décrit ici. Je te garantis ce jour-là, tu comprendras la différence que Dieu a créée en toi. Nous avons des choses que les anges ne pourront jamais dire à Dieu. C'est pourquoi que nous reconnaissons que notre Seigneur est digne. Il est digne, car il a créé toutes choses et il nous a recréés. Que le Seigneur vous bénisse. Nous continuerons la prochaine fois.
Nous espérons que cette parole vous a exhorté, édifié et réconforté, et qu'en la pratiquant, la gloire de Dieu se manifeste au travers de vous sur terre. Nous vous invitons aussi à consulter le site www.enseignemoi.com. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez nous contacter pour d'autres enseignements, appelez-nous au 00 257 22 24 13 39 ou par email msburundi@yahoo.fr.